On va aller justement trouver Vincent Destouches qui est là au bout du fil. Salut Vincent!
Salut Derek!
Alors Vincent, écoute, pour un fan de foot comme toi, je sais que cette Coupe du Monde-là, c'est un mois très intense. Je ne sais pas si normalement le début est un petit peu plus lent parce que on a tous nos préférés, on a tous les équipes qu'on s'attend qui passent à la phase des 16. Mais là, c'est-tu juste moi ou ça c'est vraiment commencé sur les chapeaux de roue, là?
Ça l'est, oui et non. T'sais, dans le sens que, écoute, les favoris ont eu beaucoup de mal à date. De voir l'Allemagne perdre devant le Mexique, de voir le Brésil tâtonner devant la Suisse, de voir l'Espagne et le Portugal faire match nul, la France qui a beaucoup de difficultés à vaincre l'Australie, etc., etc. Ça a été compliqué. Je pense que, d'une certaine mesure, les grandes nations peuvent, doivent et vont mieux faire en termes de niveau de jeu et de résultats. Ça va commencer dès demain, là, les deuxièmes matchs de chaque groupe. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une progression à ce niveau-là. Mais par contre, ce que ça fait, justement, le fait qu'ils aient eu tant de difficultés, c'est que cette Coupe du Monde, elle est terriblement excitante dès maintenant. Ça a commencé, on peut le dire, sur les chapeaux de roue, dans le sens que c'est très nivelé entre pas mal toutes les équipes, même celles dont on attendait relativement peu. Moi, je regardais Belgique-Panama aujourd'hui, ça a fini 3-0, mais je peux vous dire que les Belges, ils ont eu du mal quand même. Hein. Mm-hmm. Ils ont vraiment eu de la difficulté face à des Panaméens très accrocheurs. La Suède qui bat la Corée du Sud 1-0 sur un pénalty, ça fait en sorte que déjà, on est à fond dedans. Parce que tout peut arriver, que déjà, ce qu'on attendait, les prévisions de la plupart du monde, de voir par exemple peut-être l'Allemagne terminer premier, bah, peut-être que ça ne va pas arriver, ou est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils vont se reprendre? Est-ce que le Mexique va finalement se prendre les pieds dans le tapis et ne pas terminer numéro 1? Parce que si l'Allemagne termine numéro 2 de leur groupe, peut-être qu'ils vont se retrouver face au Brésil en 8e de finale. Bref, on est déjà parti dans toutes sortes d'hypothèses, de supputations, puis ça c'est génial. C'est que moi j'ai beaucoup aimé cette première semaine qui a commencé avec une tonne de buts. Ça s'est un petit peu ralenti par la suite. Sur les 14 matchs, il y a eu 6 matchs qui ont terminé par le score de 1-0. Mais c'est pas grave, parce qu'on met beaucoup trop d'emphase sur le nombre de buts dans le soccer. Et ça, je mets ça entre guillemets. C'est pas ça le plus important. C'est un sport qu'il faut savoir apprécier pour tout un tas de choses. Et le spectacle qu'on nous donne sur le terrain depuis le début, il est au rendez-vous entre des nations qui sont pas mal plus proches que ce qu'on attendait.
Vincent, dis-moi, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a surpris, une équipe que tu ne t'attendais pas, là, que le résultat à date t'a dit « Oh, attends une minute, là, c'est pas ce que je m'attendais ».
Oui, il y en a au moins une. La première qui vient en tête, c'est de toute façon, ça va avec le résultat. La plus grosse surprise de la semaine, c'est le Mexique.
Oui.
Le Mexique qui, écoute, a des bons joueurs, mais t'es peut-être pas dans non plus son âge d'or. Et ça s'est vu dans les qualifications aussi, où le Mexique a pas nécessairement survolé la campagne de qualification comme ça a pu être le cas par le passé. Elle est portée, cette équipe mexicaine, par des joueurs qui évoluent notamment en MLS. Carlos Vela qui est à Los Angeles FC, et il y a les frères Dos Santos qui sont aussi à Los Angeles, mais du côté du Galaxy. Puis ils impressionnent pas tant que ça, hein, les frères Dos Santos en MLS, on va se le dire. Mm-hmm. C'est que j'étais pas certain que cette équipe mexicaine était capable de rivaliser à ce point-là. Moi, je les avais quand même valorisés avant le début du tournoi. Hein. Je pense qu'ils peuvent facilement aller en 8e de finale. Mais de sortir la performance qu'ils ont sortie à ce moment-là, face aux champions du monde en titre, les Allemands qui sont peut-être pas non plus dans leur meilleure forme, mais peu importe, il faut savoir sortir le bon match le jour J, ils m'ont impressionné. Mais je te dirais que c'est vraiment une tendance depuis le début de cette Coupe du Monde. L'Uruguay a eu un tas de difficultés, l'Australie a été étonnamment conquérante face à la France, le Portugal... je trouve qu'ils ont été très, très vaillants, très valeureux. Ils ont beau être champions d'Europe, ils avaient une très belle équipe d'Espagne en face et ils ont vraiment bien rivalisé. Les Tunisiens aujourd'hui, je veux leur donner aussi mes félicitations. Bref, c'est ça qui est génial.
Mais
il y a les grandes nations et il y a toutes les autres.
Les Tunisie aujourd'hui, là, ils ont tenu le coup jusqu'au temps ajouté. Mais pour eux, là, un nul aurait été une grande victoire face aux Anglais aujourd'hui. Hein. Ils sont venus très près.
Bah, c'était leur objectif, en tout cas, d'accrocher des points. C'est comme ça qu'on se lance dans le tournoi et par la suite, on se donne une chance. C'est sûr que s'ils arrivent à accrocher l'Angleterre, Par la suite, leur match, c'est face à la Belgique. Là encore, il faut s'accrocher. Puis ensuite, il y aurait eu une finale contre le Panama. Bref, c'était la bonne manière de commencer le tournoi. Là, je pense que si on est Tunisien aujourd'hui, on est fier et on peut l'être, mais on est surtout très déçu parce que d'encaisser un but dans le temps additionnel, c'est toujours très décevant. Alors, il y a une certaine logique sportive qui a été récompensée parce que les Anglais, ils se sont créés une tonne d'occasions. Ils auraient dû marquer peut-être plus de buts dans la première mi-temps. D'ailleurs, ils en ont manqué certaines, je sais pas très bien comment. Mais écoute, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est qu'il y a aucun résultat qui est acquis dans cette compétition pour l'instant, que les géants, les favoris, eh ben, ils sont pas si sereins que ça. Donc, les Tunisiens, comme les Coréens ou n'importe qui, ils ont encore toutes leurs chances pour la suite.
Nous, les Québécois, les Canadiens, on n'a peut-être pas un cheval dans la course. On regarde le tournoi, on apprécie le spectacle. Et si on a des racines, possiblement internationales, peut-être qu'on a un club, peut-être qu'on a un club. Comme toi, je sais que tu en as un, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens ici au Québec qu'on voit passer avec leur véhicule. Ils ont des drapeaux. J'ai vu le drapeau Uruguay, j'ai vu des gens avec le drapeau, les chemises de Portugal. Alors, on voit un peu le monde et ils affichent leurs couleurs. Et là, ça, je trouve ça bien. Mais pour un, par contre, par exemple, un Français, lui, là, la victoire de samedi face à l'Australie, comment le peuple vit ça? Le nul, les Portugais et l'Espagne, comment les gens vivent ça? La victoire au Mexique, comment les gens vivent ça dans la phase de groupe, une victoire comme ça, tout de même, c'est immense pour une population.
Bah, tout dépend effectivement du statut de la nation en tant que telle. Si on parle de la France, elle est la tête de série, entre guillemets, de son groupe, la favorite. Donc, il y a des attentes qui sont bien supérieures, par exemple, à celles qu'on pouvait attendre de l'Australie en Australie. Alors, je pense qu'il y a deux façons d'analyser, de juger, de parler d'un résultat. Il y a le résultat en tant que tel qui est la victoire. C'est ça qu'il fallait. C'est l'essentiel au final. C'est tout ce qu'on retient. C'est ce qui permet d'avancer et d'éventuellement aller chercher une qualification pour les huitièmes de finale. Ensuite, il y a la manière. C'est le jeu qui a été produit, le système qui a été choisi, les combinaisons de joueurs. Et là, je peux te dire... qu'en France, on n'est pas nécessairement content de ce match-là, qu'il pose beaucoup de questions sur énormément de joueurs. On est critique de la même manière qu'à Montréal, on est critique du Canadien, même dans la victoire. Okay. C'est partout pareil. C'est le sport. C'est le sport qui veut ça. Il n'y a jamais de perfection absolue. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais, je te dirais que c'est pas une histoire d'être Québécois, d'être Canadien. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. L'Italie n'est pas à la Coupe du Monde. Mais les Italiens, ils la regardent aussi, cette Coupe du Monde. Ils la regardent peut-être pour haïr la Suède, qui les a éliminés. Ou ils la regardent pour d'autres raisons. Mais il y a ceux dont le pays est qualifié pour la Coupe du Monde et qui le vivent de manière passionnelle, de manière émotionnelle, qui sont totalement investis. Et il y a ceux qui le regardent pour le plaisir, pour le spectacle. Et à la limite, tant mieux aussi, parce qu'on peut apprécier toutes ces histoires. On peut avoir un coup de cœur pour une équipe qui joue bien ou pour un public, par exemple l'Islande. Qu'est-ce que j'ai de respect pour l'Islande. Déjà, ce qu'ils ont réalisé à l'Euro 2016, cette énergie qu'ils apportent au monde du foot, cette pureté, ce côté passionnel, je les adore. Ils sont extrêmement courageux également sur le terrain. Et je pense qu'il y a énormément de fans de l'Islande aujourd'hui dans le monde, alors que c'est un tout petit pays. Et ça, c'est vraiment le fun.
Vincent, avant de te laisser partir, tu sais, ça fait plus depuis la dernière Coupe du Monde, tu es analyste à TVA Sport avec les matchs de l'Impact, tu es habitué d'analyser, de critiquer, de commenter les matchs MLS. Moi, quand j'ai regardé les matchs ce week-end et le match des Anglais aujourd'hui, je trouve la circulation de ballon, les jeux de passe, les jeux en espace restreint. C'est totalement, totalement une autre vitesse et un autre niveau. Est-ce que tu vois beaucoup de différence, toi, lorsque tu regardes? Je pose une question. Je sais pas que c'est plus lent en MLS. Il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent en MLS, mais on a vraiment, vraiment, peu importe le match qu'on choisit là, à la Coupe du Monde, là,
bien sûr.
C'est la crème qui est là. C'est mais un voilà, autre niveau, hein?
Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. On peut pas comparer la MLS aux équipes de la Coupe du Monde, comme ce serait parce que ce serait injuste. Et ce serait injuste aussi de prendre la Ligue 1 française ou la Liga espagnole ou ce que tu veux et de comparer avec la crème de la crème. Là, ce qu'on voit à la télévision, c'est l'élite du soccer mondial. Les 23 meilleurs joueurs de chaque pays, ou peut-être pas forcément les meilleurs joueurs, parce que des fois, il y a des logiques de groupe. Il y a quelques meilleurs joueurs qui ont été écartés pour en prendre d'autres, parce que ça répondait à tel ou tel critère du sélectionneur, mais c'est tout comme. Alors, effectivement, il y a une différence de niveau entre un match lambda de MLS et n'importe quel match de la Coupe du Monde, où tu parles de la circulation de balles. Je trouve que techniquement aussi, la capacité à se sortir des petits périmètres, le déchet technique qui est beaucoup moindre dans cette compétition mondiale, il y a une différence de niveau qui est là. Après, ce que je veux redire, c'est que il faut pas prendre ce prisme-là nécessairement, et même si je le comprends, tu regardes un match de MLS dans la journée, il t'enchaîne avec un match de la Coupe du Monde, tu vas dire ok, il y a trois univers d'écart. Mais Robert Duverne, qui est actuellement préparateur physique de l'Impact de Montréal, qui a évolué, qui était dans le personnel d'entraîneur de Lyon pendant des années, qui a aussi été avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006, etc., donc il s'y connaît, il y a pas si longtemps que ça, comparait le niveau d'un match de MLS comme Dallas-Montréal au niveau d'équipe moyenne, j'ai envie de te dire, de Ligue 1. Fait que l'écart entre la MLS et des très bonnes ligues du monde, il n'est pas si grand que ça. Mais c'est sûr que là, on a l'élite du foot mondial devant nos écrans à chaque heure quasiment de la journée.
Ouais, c'est merveilleux.
On prend un plaisir de fou et qu'on va, faut juste le savourer de voir ces meilleurs athlètes réunis pour se disputer le trophée le plus convoité. Et il y en a d'ailleurs de la MLS qui sont à cette Coupe du Monde, notamment aujourd'hui, on l'a vu avec le Panama, où il y avait beaucoup de joueurs qui évoluent, notamment Roman Torres qui est à Seattle, avec Hannibal Godoy qui est à San Jose. Donc il y en a. Laurent Simon, malheureusement, n'a pas été retenu. Il était le 24e homme, il a dû repartir au pays, c'est triste pour lui, mais ça montre quand même que dans cette compétition qu'est la MLS, il y a des joueurs qui ont le niveau de la Coupe du Monde.
Vincent, juste te dire en finissant, là, j'ai le coup de tête, je ne sais pas comment tu appelles ça, le coup de tête que Harry Kane a fait là, pour marquer le deuxième but aujourd'hui. Là. Moi, ouais. C'était sur un rebond à bout portant, mais la vitesse qu'il a, regarde, c'est plus fort que mon coup pied, ça. C'était malade.
Écoute, c'est vrai que c'était pas évident parce que les deux buts sont assez similaires d'ailleurs de l'Angleterre, mais tu fais référence au but gagnant où c'est un coup de pied arrêté, il y a un défenseur central, je pense que c'était Maguire de l'Angleterre qui est à la retombée du ballon, qui fait une reprise de la tête, et finalement au deuxième poteau, t'as Harry Kane qui traînait par là, et lui il voit le ballon arriver. Ce qu'il veut faire, c'est que il sait qu'il a pas beaucoup d'angle, il sait qu'il y a pas nécessairement énormément de vitesse dans le ballon, il peut pas seulement mettre sa tête en opposition. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il veut donner le maximum de puissance dans sa tête. Alors il prend un élan avec sa tête et il donne un énorme coup, en tout cas le plus puissant qu'il pouvait donner. La chance qu'il a eue, c'est que déjà sa frappe était relativement puissante, sa frappe de la tête, mais en plus il l'a terriblement bien placée au premier poteau. Peut-être que le gardien aurait pu mieux faire, mais peu importe. On vit des émotions dans cette Coupe du Monde avec des buts dans les derniers instants, des résultats qu'on n'attendait pas. On vibre et écoute, moi devant ce match-là, j'étais à la fois déçu pour les Tunisiens, mais content pour les Anglais qui ont aussi une belle génération. Alors on est capable d'apprécier ce spectacle de tout pays.
Hey, t'es bien fin, gars. Je te souhaite une bonne journée demain. Évidemment, on aura la chance de se parler davantage cette semaine. Et merci d'avoir pris le temps, Vincent Destouches.
Avec grand plaisir, Derek.
Salut, bye bye.